Je suis tout à fait.
Moi, c'est André de Mbouzmaï au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. La quatrième session de la commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'est clôturée mardi 3 juin 2014 à Kinshasa. Cette rencontre devrait permettre aux experts de deux parties d'évaluer entre autres l'opération des expulsions et l'exécution des accords de défense et de sécurité qui lient les deux pays. Nous en parlons donc aujourd'hui et quel regard portez-vous sur la tenue de cette commission mixte. Pour participer à ces débats, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 6315. Noël Alouzitou est à la réalisation, Mimi Kindou est à la technique pour assurer la mise en onde de ce programme présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikon Gaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons dans ces studios professeur Mahatma Tazi, qui est docteur en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Bonjour professeur.
Bonjour, merci.
Alors, en droit international, quelle est la pertinence de telle commission? Est-ce pour régler la crise ou encore régler les désaccords qui existent autour de d'un conflit donné?
Oui, disons clairement que chaque État est un acteur rationnel. Chaque État a ses relations internationales. Chaque État s'exprime sur le plan international par le truchement de sa politique étrangère. Alors, depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup d'accords et les États sont conscients aujourd'hui qu'ils doivent régir, en fait, qu'ils doivent résoudre leurs problèmes pacifiquement. Ainsi donc, lorsqu'il y a un litige, il y a un différend, il y a un problème, ils se mettent d'accord sur les modalités de sa résolution. C'est le sens qu'on peut accorder, bien sûr, à ce genre de commission entre deux États, bien sûr, pour résoudre le problème de l'heure.
Alors, le problème de l'heure, ce sont des expulsions que nous avons, massives donc, que nous avons connues ces derniers temps, au niveau de Congo-Brazzaville. Et à l'issue des travaux en commission qui sont tenus à Kinshasa, entre les représentants de la RDC et ceux du Congo-Brazzaville, les deux pays ont annoncé qu'ils allaient enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme commises lors de l'expulsion des ressortissants de la RDC. On peut dire quand même que le coup lancé par la RDC a trouvé quand même gain de cause.
Oui, c'est parmi les rares fois que la RDC dit quelque chose et les autres réagissent positivement. En fait, il faut poser le problème autrement. Il faut poser le problème autrement. Même si c'est assez tardivement, mais il faut savoir bien le poser. Il faut résoudre le problème. Il faut poser le problème sur le plan des fonds et sur le plan de forme. Sur le plan de fond, quel est le basique du problème? Comment peut-on tenter de le comprendre? Ça, c'est sur le plan de fond. Une autre question de fond, c'est que pourquoi les Congolais vont-ils ailleurs? Lorsqu'on aura répondu à ces questions sur le plan de fond, je pense que la forme pourra bien sûr suivre. Alors, retenez que sur le plan de forme, un État souverain peut expulser les ressortissants étrangers se trouvant sur son sol, sur son territoire, s'ils sont en situation d'irrégularité. Alors, est-ce que cette possibilité souveraine des États peut être suivie des irrégularités? Là, il faut maintenant poser le problème de forme. Les Congolais de Brazzaville, où les autorités ont expulsé les Congolais de Kinshasa. Est-ce qu'ils ont tenu compte des conditions requises pour le faire? Alors là, ce sera la question de forme. Mais pour l'heure, il faut saluer le fait que les autorités se sont mises ensemble pour trouver un modus vivendi et solutionner cette question qui, il faut le dire, c'est une question qui fâche.
Oui, parce que c'est vrai, il y a eu pas mal de recommandations. Ce que nous venons de dire sur une commission pour enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme. Et les deux pays ont également décidé d'instaurer des nouvelles règles pour régir la circulation des citoyens d'un pays à l'autre. Voilà, nous savons que depuis toujours, et d'une manière historique, les deux pays ont des liens, il y a des accords qui les lient. Aujourd'hui, c'est comme pour dire tous ces accords précédents ont été revus. Ils se sont passés à la révision. Donc ils ont révisité les accords.
Bien, mais c'est le naturel des États. J'ai dit que les États sont des acteurs rationnels. Ils peuvent de bon gré recourir à la force ou à la diplomatie. Alors, généralement, les deux Congos ont eu des accords pour la circulation des biens et des personnes. C'est notamment l'accord du 3 décembre 1999 que certaines personnes ont mis en exergue. Alors, selon cet accord-là, entre les deux États, il n'y a pas nécessité qu'il y ait passeport et visa.
C'était un accord tripartite et il y avait aussi l'Angola là-dedans.
Bien sûr, oui. Mais parlons un peu de deux Congo parce que la question se pose entre ces deux pays-là. Alors, c'est un accord qui date de 1999. Alors, si par exemple les conditions sociales, les conditions politiques ont évolué, et il y a lieu que l'on puisse revenir, revisiter l'accord. Mais simplement, cette révisitation doit être une révisitation communément acceptable et de commun accord. Un État ne peut pas revisiter unilatéralement un accord tripartite, comme vous le dites. Mais retenez sincèrement qu'au sujet des accords, c'est un accord international qui a des conditionnalités. Alors, je pense que il ne faut pas s'étonner sur les questions de relations internationales, il ne faut pas s'étonner que l'on puisse revisiter un accord conclu entre deux acteurs. Mais simplement, les deux acteurs doivent être d'accord pour revisiter l'accord. Et là, je pense que les deux États se conviennent depuis mardi passé, se conviennent de revisiter. Mais il faudrait voir les conséquences qui en découlent. C'est le plus important. Quelles sont les conséquences, en fait, en termes des effets juridiques? Je ne veux pas dire ici que lorsqu'il s'agit d'un traité, d'un accord international, bilatéral, multilatéral, il y a des principes sur les effets des traités. Vous avez les principes de pacta tertis, nec pro sunt, nec nocent. Ça veut dire que les traités ne peuvent lier que les parties contractantes. Alors, si les parties contractantes se mettent d'accord sur le modalité de révisitation de l'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui fâche, c'est que l'on puisse unilatéralement tenter de revisiter l'accord et puis la RDC adhère au changement. Et là, c'est quand même assez regrettable.
081-890-6315 pour votre participation en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous ouvrons les standards et nous accueillons le premier auditeur qui est en ligne. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour JR, bonjour à monsieur l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, quel regard portez-vous sur la tenue de cette commission mixte?
Oui JR, d'entrée de jeu, il faut commencer d'abord par saluer cette tenue de commission mixte parce que cette commission a été tant attendue, réclamée par les Congolais à corps et malheureusement, elle a mis beaucoup de temps pour revenir pendant que les faits étaient encore frais. Beaucoup de gens ont attendu, mais malheureusement, on a senti qu'il y avait des résistances et d'autres. Bon, comme la commission est là, c'est une très bonne chose. Mais néanmoins, au-delà, JR, de cet encouragement, cette félicitation, on est un tout petit peu perplexe, parce que croyez-moi, nous ne sommes pas à notre première commission. Il y avait une autre commission mise en place lorsque l'Angola expulsait les Congolais avec toute brutalité Mais à notre humble avis, nous nous sommes rendus compte que ces commissions-là ne donnent toujours pas des résultats escomptés. C'est pour cela, moi, j'aurais souhaité, au lieu que la commission soit mixte entre les deux pays, on pouvait chercher certaines personnes, pourquoi pas inculquer même le membre de l'Union africaine, pourquoi pas même passer sous le cadre de la CIRGL, pour que les résultats ne soient pas contestés par qui que ce soit. Parce que notre crainte repose sur le fait que la République démocratique du Congo était la première nation à dénoncer déjà la brutalité avec laquelle les Congolais étaient expulsés. Et puis au jour d'aujourd'hui, on vient de nous dire qu'il y a des traités rectifiés, mais moi je pense que ça risque vraiment d'être à l'encontre avec le principe de droit international. Lorsque nous prenons le principe selon lequel Pacta Sunt, c'est Rwanda, et on se rend compte que le Congo Brazzaville n'était pas en mesure de respecter les accords précédemment signés entre les deux pays. Et qu'est-ce qui pourrait justifier au jour d'aujourd'hui avec cette rectification que cette fois-ci, le Congo Brazzaville sera à même de respecter ce contrat. Deuxièmement, c'est comme l'invité l'a dit, il y a des questions autour desquelles on pouvait étudier, donc les questions des fonds, les questions de forme. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il était donc c'est aller vite en maison de traiter déjà les questions
oui,
de fond.
Oui, Maître Adrien, oui. Pour votre information, nous avons tout suivi la presse. Le ministre de l'Intérieur de la RDC a dit que les deux parties sont engagées cette fois-ci à accélérer d'ailleurs le processus pour que cette convention, il appelle sa convention, avant on l'a appelé accord, mais je ne sais pas, peut-être notre invité pourrait nous éclairer là-dessus, que cette convention puisse être votée par les deux parlements. Je crois que les accords précédents n'ont pas été votés et par le parlement, mais cette fois-ci, je crois qu'il y a quand même une valeur ajoutée. Ça pourrait constituer quand même d'une garantie.
J'ai en même l'avis que cette convention soit votée par les deux parlements. À mon même l'avis, cela ne veut du tout rien dire. Mais ce qui pouvait peut-être changer, c'était la volonté politique qu'animeraient les deux nations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même humiliant de voir un pays frère procéder à des humiliations que nous avions vues, sans motif valable, traitant les ressortissants d'une autre nation, que nous étions, donc ce sont des criminels. Moi, je pense que c'est
voilà.
Il faut ajouter vraiment la volonté politique des deux nations pour voir comment est-ce qu'il faut respecter cette fois-ci ou jamais cette convention.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Malgré qu'on a des petits soucis avec votre ligne, nous avons quand même pu retenir que vous saluez d'ailleurs la tenue de cette commission mixte entre les deux pays, bien que cela soit arrivé un peu tard, du fait que les Congolais de Kinshasa le réclamaient quand même que les enquêtes soient, disons, que les enquêtes soient établies, en fait, pour établir un peu la vérité par rapport à cette situation, et vous y mettez quand même quelques inquiétudes, et vous redoutez que cette commission ne puisse pas donner de résultats, dans la mesure où il y a eu des réunions ou encore des accords qui ont précédé. Et caractérisé par le non-respect donc de ces conventions. Alors aujourd'hui, vous voulez la voir internet s'il y aura vraiment respect des accords. Ben voilà, merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé. Caleb, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Caleb.
Oui, moi également, je salue la tenue de cette rencontre, de la rencontre entre les experts des deux pays, mais moi je crois savoir que les experts ne peuvent pas toucher les fonds de la question. Je crois que notre ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères du pays, donc du Congo d'en face, doivent se rencontrer pour parler des questions des fonds. Et je crois que les fonds doivent être... Il y a la cause qui a poussé que... Et ces expulsions-là. Et je crois que ça ne doit pas être sans un médiateur. Et je veux que qu'on prenne par exemple le médiateur comme de l'Union africaine ou bien de la communauté internationale pour qu'on puisse bien analyser ce qui s'est passé pour que l'histoire ne se répète plus dans les futurs.
Donc vous allez appeler à une médiation neutre, de gens par exemple l'UIA ou encore d'autres organisations internationales pour au fait régler l'affaire définitivement. Merci beaucoup Caleb. Ruffin, vous êtes à Équateur. Bonjour. Monsieur Ruffin, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Serge qui est à Bounia. Serge, bonjour.
Oui. Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Serge. Parlez un peu fort, Serge.
D'accord, en fait. Je suis ravi de cet appel parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de caractère citoyen. Et je crois que, comme je l'ai dit dans les commentaires, lorsqu'on parle de l'exclusion de nos concitoyens, c'est une question qui me tient à cœur. Et je voudrais que les questions liées aux conditions de rapatriement, mais également que toutes les parties prenantes qui se rendent compte que cette exclusion ne peut pas revenir chaque fois, parce que nous devons nous rendre compte que nos concitoyens, lorsqu'ils se rendent au niveau de Congo-Brazza, c'est aussi pour des questions bien précises, mais alors nous devons mettre en question toute cette problématique de façon à ce qu'il n'y ait pas cette exclusion. Moi personnellement, je me dis si nous puissions véritablement mettre donc résoudre cette question, ça pourrait être une de bonne proposition ou une de bonne solution, de façon à ce que cette exclusion n'en revienne plus.
Merci beaucoup Serge. Professeur Matazi, nous avons suivi quand même cette série des auditeurs, comment vous réagissez?
Écoutez, il faudrait que nous revenions sur certaines choses. Je donne un conseil. Généralement, les questions congolaises sont traitées avec beaucoup de passion. Il faut commencer par dépassionner les débats. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a un auditeur qui a parlé, qui a évoqué un principe général du droit, pacta sunt servanda. Ça veut simplement dire que on est esclave des conventions, des traités, des accords signés. Cependant, ce principe-là est suivi par un autre qu'on appelle l'effet de Stoppel. Ça veut dire, c'est une règle de non-contradiction. Lorsque quelqu'un ne respecte pas un accord, aussitôt l'accord n'est pas respecté, lorsque vous ne réagissez pas contrairement à ce non-respect de l'accord, vous ne pouvez plus vous en prévaloir.
Donc il fallait que la RDC réagisse instantanément.
Promptement. Alors, je ne peux pas dire que c'est... Je suis là uniquement sur le plan théorique. Alors, il y a également un élément sur lequel il faut revenir, c'est la forme des accords. Nous avons généralement, sur le plan théorique, deux types d'accords. International, bien sûr. Nous avons les accords ou les traités à forme solennelle et les traités à forme simplifiée. Alors, un traité à forme solennelle, c'est un traité qui, avant d'être de porter les effets juridiques, qui, avant d'entrer en vigueur, doit passer impérativement par une ratification. Ça veut dire le Parlement doit traiter de la question et le président ratifie. Tandis qu'un accord à forme simplifiée porte ses effets uniquement après la négociation, après l'apposition de la signature qu'on appelle généralement en droit international et en relation internationale, la signature ad referendum. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que l'accord de 1999 était un accord à forme solennelle ou à forme simplifiée? Alors, lorsque nous suivons nos délégués, nos représentants, lorsque notre ministre dit il faut tout faire pour que cet accord soit ratifié par les deux parlements, ça veut simplement dire que le premier accord était à forme simplifiée. Alors, ça donne une certaine solennité à l'accord et ça pousse les États à respecter un accord comme celui-là. Un autre élément, nous sommes en relation internationale. Chaque État a ses propres relations internationales. J'insiste pour que les gens se rendent compte qu'en relation internationale, il n'y a pas de pays frères. Il n'y a pas de pays amis. Il y a seulement des intérêts des États qui prévalent. On ne peut pas dire que le Congo c'est un État et l'État frère. Non, c'est pas possible. Aussi longtemps que l'objectif de politique étrangère de Congo-Brazza sera d'expulser les Congolais, ils le feront en toute souveraineté. Mais le problème qui se pose est de savoir les conditions de cette expulsion-là. Retenez ici, il s'agit de beaucoup de violences. Beaucoup de violences, de violations des droits de l'homme, de comportements dégradants, de... En fait,
jusque-là, les deux parties reconnaissent quand même que ce sont des violations présumées des droits de l'homme.
Oui, ce sont présumées. En fait, ce sont des présomptions. Parce que
c'est cette commission d'enquête qui pourrait établir.
Ce sont des simples. Je ne dis pas que ce sont des simples présomptions. C'est, en fait, les irrégularités des faits, ce sont les tribunaux, la commission qui.
Tout à fait, qui va établir les.
Mais nous avons été avec les expulsés. Nous voyons les faits. Nous voyons les faits. Donc, la présomption, c'est bien, c'est de la part de la commission, c'est pratiquement ce que le Congo Brazzaville dit. Mais nous, ici, nous avons vu, nous vivons avec ces expulsés. Nous savons qu'il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens, des femmes qui ont été violées. Et là, c'est très grave.
La commission va examiner au cas par cas toutes les allégations hein, en rapport avec ces violences de droits humanitaires survenues au cours de l'opération. Alors, on va repasser à nouveau de l'autre côté de Sandar avec Malonga de Bandundu, Papi Beni et puis Maurice à Kinshasa. Malonga, bonjour. Malonga, vous êtes avec nous ?
Oui, voilà. Je suis avec vous.
Voilà, vous avez la parole. Quel regard portez-vous sur la tenue de cette commission mixte ?
Ok, merci beaucoup. Je remercie d'abord Dieu l'Éternel de pénétrer au cœur de ces représentants des deux pays en conflit. Bon, ce que j'entends à cette commission est de prononcer vraiment véridiquement la décision ferme pour les Congolais en face. Puisque ici, hier, nous avons déjà des films, puisque Bandundu se proche des Congo-Brazza. Il y a les refoulés, beaucoup de refoulés ici, qui ont des films. J.R., peut-être que vous avez vu déjà cela.
Oui, Malonga, on ne peut plus revenir sur ça, dans la mesure où la commission s'est tenue. Il y a eu des recommandations, comme vous l'avez vu. C'est vrai qu'il y a déjà un avancement dans les dossiers. Donc, voyons peut-être dans l'avenir. Pour nous, alors, vous avez un regard. Il y a maintenant des accords. On avait dit on attend que ces accords soient ratifiés. Et comme pour dire que l'accord du 3 décembre 1999 n'y était pas. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des avancées très significatives. Dans les relations historiques entre les deux pays.
Nous sommes les pays des accords. Nous subissons beaucoup des accords qui n'aboutissent à rien pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, c'est ce que moi je dis, ceci. Cette commission mixte s'est réunie pour trouver une solution qui serait aussi satisfaisante à nous les victimes. Alors, est-ce que cette commission vraiment va prononcer véridiquement les règles de la loi internationale telles qu'elle le soulignait dans les règles internationales? Vous voyez Martin Kobler, c'est un œil et oreille de l'opinion internationale. Il a déclaré qu'en réalité, en Congo-Brazzaville, il y a une violation des droits de l'homme pour les RD congolais. Bon, est-ce que cette parole de Martin Kobler sera vraiment suivie avec des sanctions?
Oui, mais c'est pourquoi il y a cette commission d'enquête qui est mise sur pied pour, en fait, établir la vérité.
Oui, c'est ça, Pierre, voilà. Ça sera toujours, c'est comme ça dans notre pays. Nous avons des références à l'est du Congo. Vous savez comment est-ce que nous, les Congolais aussi, nous avions suivi là-bas. Mais il y avait des accords, il y avait des commissions aussi, jusqu'à présent en vain. D'autres aussi.
Voilà, donc vous avez un peu d'inquiétude.
Nous insistons comme ça, Pierre, nous insistons à cette commission qu'il y ait vraiment donc la satisfaction du peuple RD congolais.
Merci beaucoup. Je crois on va suivre ça au cas par cas, comme la commission a décidé. Merci beaucoup, Malonga. Papi, vous êtes à Beni. Bonjour, Papi.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Papi.
Je voudrais d'abord ici exprimer mon indignation sur la manière dont nos autorités traitent la question de nos compatriotes expulsés de Brazzaville. Pourquoi nos politiciens aiment toujours réduire la grandeur de notre pays face à un tout petit pays comme le Congo d'en face? de qui nous n'avons aucun intérêt majeur. Je souligne bien.
Je crois que papy, disons, en droit international, il n'y a pas de petits États. C'est comme l'a dit notre invité tout à l'heure. Donc, c'est vrai que nous devons. Il y a cette souveraineté de chaque pays. Nous ne pouvons pas parler de petits par rapport à la superficie. Mais c'est un État. C'est un État et la RDC, s'il a tenu à organiser cette commission, et c'est pour, au fait, respecter les règles du droit international.
Bon, moi jusque-là, je ne refuse pas, M. J.R. Mais regardez comment est-ce que les autorités de Brazzaville réagissent d'une manière arrogante aux différentes allégations faites par la RDC.
Oui, notre invité a dit tout à l'heure, il n'y a pas de pays ami, il n'y a que des intérêts qui priment.
Oui, il y a bien sûr des intérêts. Mais est-ce que le Congo-Brazzaville s'est tenu compte des intérêts qu'ils ont vis-à-vis de la République démocratique du Congo avant de prendre telles décisions? Nous, nous sommes ici à l'Est, nous savons que la technologie a évolué, nous avons tout suivi à l'Internet. Moi, je sais que je proposerais comme solution, c'est quoi? Que la RDC devrait initier ses assises sous les beaux offices de la communauté régionale, internationale, et au besoin saisir les instances internationales, mais également chercher à améliorer les conditions sociales pour que ce genre de choses ne soient pas seulement pour les Congolais. Vous voyez l'exemple des Congolais expulsés de la Zambie, de l'Angola, et demain ça sera encore un autre pays.
Voilà,
c'est pour cette raison que nous demandons à notre gouvernement de bien vouloir améliorer nos conditions sociales, socio-économiques, pour que nous puissions nous prendre en charge au lieu d'aller par-ci, par-là, et demain,
voilà, papy,
tu vas être expulsé.
Merci beaucoup, papy, d'avoir appelé. Vous rejoignez d'ailleurs vos prédécesseurs. Lorsque vous proposez une médiation à naître, ça pourrait quand même constituer une garantie pour le respect, en tout cas, cette fois-ci, définitivement, des accords. Merci beaucoup. Alors, Maurice, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Bonjour, Jérôme Gembo.
Vous avez la parole, Maurice. Quel regard portez-vous sur la tenue de cette commission mixte? Dommage, Maurice n'est plus en ligne. La réalisation va nous aider à récupérer, à repasser à nouveau Maurice en ligne. On va prendre Claude qui est à Kinshasa. Claude, bonjour.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole.
Oui, J.R., j'ai très mal en suivant toutes ces histoires qui se sont passées au Congo-Brazzaville. J'attire l'attention de notre gouvernement que deux fois, à l'insolence, il faut répondre par l'insolence, car le bon sens n'est pas donné à tous. Je suis chrétien, je ne suis pas rancunier. Ce qui est arrivé, mais que notre gouvernement essaie d'agir un peu plus rapidement. Adrien de Kananga a presque tout dit. Il a tracé les lignes maîtresses. Mais ce que je voulais ajouter est ceci. Que le Congo Brazza reconnaisse sa faute. Qu'il nous demande pardon. Bien sûr, vous avez dit que nous ne sommes pas frères et tout ça. Mais il y a des liens de consanguinité entre nous. D'où nous sommes toujours frères. Alors, sous l'arbre des palabres, mettons-nous ensemble. Que le Congo Brazza nous demande pardon.
Mais voilà, mais la raison pour laquelle...
Le pardon, Claude, est une grande force militaire.
Oui.
Aussi longtemps qu'ils ne nous auront jamais demandé pardon,
mais je crois que Claude,
nous ne serons jamais tranquilles dans nos cœurs.
Oui, Claude, je crois que c'est les travaux que la commission a eu à exécuter au niveau de Kinshasa témoignent à suffisance un pas de plus vers l'apaisement entre les deux capitales. Parce que c'est vrai que nous avons assisté, nous avons tous suivi quand même l'évolution de ces dossiers. On a quand même d'une part senti aussi comme un jeu de ping-pong au niveau des paroles des uns et des autres, mais aujourd'hui c'est mettre autour d'une table et aussi faire sortir des recommandations, c'est que c'est quand même, comme je l'ai dit, un pas de plus vers l'apaisement entre les deux capitales. Donc nous pouvons que saluer, comme l'a dit Maître Adrien, tout en émettant quand même quelques inquiétudes aussi, en demandant la médiation neutre pour constituer une garantie.
Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je ne refuse pas. Mais nous devons aussi faire cela pour que nous soyons calmes dans nos cœurs. Nous devons avoir nos apaisements. Il y a trop à dire sur cette histoire. Où se trouve la communauté internationale?
Où se trouvent les droits de l'homme? L'Union africaine et tous les autres, où sont-ils? Ils devaient participer à cette histoire. Vous voyez, le problème du Congo-Brazzaville, vous a tenu tout ça à cœur parce que vous avez vu. Mais allez vers Dilolo, vers les Katanga là-bas, allez voir ce qui se passe quand on refoule de l'Angola.
Voilà, merci beaucoup Claude d'avoir appelé. Professeur Tazi, c'est vrai que le débat va vers une médiation en fait neutre, telle que proposent les auditeurs. Est-ce que, en droit international, vous pensez qu'une telle commission mixte devait être tenue en fait sous l'auspice, par exemple, de l'Union africaine ou encore d'autres organisations internationales de la région, de la sous-région ou de la région?
Bon, c'est tout à fait possible, hein. Mais restons dans les principes, hein. Évitons la passion. C'est un sujet qui passionne bien sûr, hein. Mais il y a une commission mixte qui a été mise sur pied pour étayer les faits, pour dire avec exactitude qu'il y a eu violation des droits de l'homme, qu'il y a eu comportement dégradant, qu'il y a eu violence sexuelle avec préméditation. C'est le travail de la commission. C'est seulement après que, en fait, la commission est composée des experts. Ce sont les experts qui font le travail et les résultats seront présentés aux autorités politiques pour prendre des décisions à caractère politique. Alors, pour ce qui concerne la médiation, pour qu'il y ait médiation, les deux parties doivent se convenir et l'accepter. Alors, lorsque les deux parties ne sont pas encore d'accord, sur le plan de relations internationales et du droit international public, et surtout sur le plan des négociations, parce que c'est une négociation bilatérale, il faudrait que les deux acceptent la médiation ou les bons offices. Aussi longtemps que les deux ne seront pas d'accord sur la forme, nous pourrions vous crier, rien ne pourra se faire. Il faut poser les problèmes autrement, JR. Violence sexuelle, il y en a eu, oui. Violation des droits de l'homme, oui. Comportement dégradant, oui. Et après? C'est le début du commencement, comme les Kino le disent. Il faut laisser la commission travailler. C'est seulement après que le gouvernement pourra prendre des mesures qui s'en souviendront. Il faut ici soulever la responsabilité du gouvernement. En fait, notre gouvernement est habitué à réagir. Toute notre politique étrangère, toute notre diplomatie, c'est une diplomatie, une politique étrangère de réaction et non d'anticipation. Nous réagissons toujours. Regardez ce qui s'est passé. On refoule les Congolais arrivent et puis le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement aurait dû faire.
Il y a eu des navettes quand même.
Bien sûr, mais
avec, nous avons vu le ministre.
Avec quelle nuance? Non. Moi, je ne parle pas des hommes politiques, mais plutôt de la réaction d'un gouvernement responsable, souverain et respectueux. Il y a en droit international le principe de réciprocité. Le gouvernement aurait dû expulser dans les mêmes conditions les Congolais qui sont ici. Peut-être aussi en tenant compte, en respectant
les principes des droits de l'homme.
En se refusant de violer les principes qui régissent les États. Oui. Mais le gouvernement aurait dû faire la même chose, expulser ceux qui sont ici. Comme ça, on se serait respecté. Mais regardez l'arrogance avec laquelle les autorités comme Brazzaville fomentent. Ils disent par exemple, c'est regrettable qu'il y ait cette stigmatisation. Tous les Congolais expulsés sont des criminels. Oui,
mais je crois que tous ces éléments ont été traités au niveau de la commission.
Si nous voulons avancer, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Pensez-vous réellement qu'au Congo-Brazza, il n'y a que les Congolais de la RDC qui sont criminels? Sinon, pourquoi est-ce qu'il n'y a que eux qui sont refoulés de cette manière-là?
Alors, d'autres personnes disent que, c'est juste un signal, ce n'est même pas vraiment le problème de criminalité, c'est un problème purement politique. Ben, peut-être en droit international, quand un pays ami, soi-disant, réagit de la sorte, ça ne peut qu'être, pour annoncer quand même, il y a Angus Sourange, quoi.
Non, en fait, ce genre de comportement est une conséquence
d'une accumulation des questions politiques, des malentendus politiques. Parce qu'on ne peut pas se réveiller de bon matin, on expulse tout le monde, sans que les pays nationaux puissent être préalablement...
Oui, c'est pas prévenu. Il faut vraiment beaucoup d'étapes sur le plan politique.
Justement, faut pas... la question a cessé d'être une question de rue. Parce que les questions de la République ne peuvent pas être traitées avec émotion dans les rues. La question est au niveau des autorités diplomatiques du pays, quitte à eux de bien jouer les faits. Mais j'ai été avec un expulsé. Je lui ai posé la question, volontairement. Je pose la question de savoir pourquoi est-il parti vivre avec toute sa famille de l'autre côté. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, au Congo-Brazzaville, par exemple, l'école est gratuite. Alors, pour lui, c'est une façon...
C'est le logado pour lui.
Vous comprenez? Oui. Une façon de faire étudier ses enfants jusqu'aux humanités. C'est une question de fond. Il faut le traiter. Deuxième élément, je voulais bien souligner. Regardez cette histoire. Comment a été dénommée l'opération Mbata Mukolo? Ça veut dire que dans les chefs de Congolais de l'autre côté, ils sont les Mikolo de Congo, Kinshasa. Il faut tirer les leçons. Il ne faut pas pleurer. Le Congo est de plus en plus un pays pleurnicheur. Cessez de réagir aux événements. Il faut les prévenir, les anticiper. Sinon, nous allons continuer. En fait, il n'y a pas seulement le Congo Brazza qui a refoulé. L'Angola fait la même chose.
La Zambie, quand
la Zambie va faire. Les autres États vont le faire. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire? Le pays est ouvert à tout le monde. Hein? Le pays est un paradis pour tout le monde. Il faudrait que ces choses-là changent. Ils ont de la réciprocité. Retenez que le Congo a l'obligation d'assurer la protection diplomatique de ces ressortissants à l'étranger. Lorsque ces ressortissants-là sont menacés, sont malmenés, le Congo doit réagir promptement afin d'être respecté, afin d'être
perçu comme un État souverain et respectable. Avec des recommandations, il est clairement établi que pour de longs séjours au Congo-Brazza, il faut vraiment avoir un passeport et un visa. Mais pour les courts séjours, bon, là, on revient sur le format habituel avec le laissez-passer. Donc, ils se sont déjà mis d'accord. Donc, c'est déjà aussi un pas. On va prendre les auditeurs qui sont en ligne. Il y a Jean Placide qui est à Kinshasa, Aloïs Akananga et Michel Amatadi. Jean Placide, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Jean Placide.
Oui, JF. Je suis vraiment ému de cette émission. Vous voyez la réaction de tous ces Congolais qui subissent le chagrin que nous ont fait subir le peuple brazzavillois. Moi, je voudrais me résumer en trois points pour être assez concis. Je m'en vais m'adresser au gouvernement congolais. Je pense que le gouvernement congolais doit rectifier sa manière de traiter les conflits régionaux, car nous paraissons tout le temps faibles par rapport aux négociations. Nous subissons et nous n'agissons certainement pas. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je pense que c'est un problème qui fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre, qui fait verser beaucoup de salive. Vous comprenez que le Congolais est chassé de partout. D'Angola, de Brazzaville, de la Zambie. Et en revanche, en République démocratique du Congo, c'est un dépotoir de tout étranger qui vient vaquer librement à ses occupations. Et curieusement, on arme même la police. Disons, on place la police derrière ces expatriés pour contre la population autochtone. Voilà déjà une contradiction qui se dégage. Donc, le gouvernement doit chercher à rectifier sa manière de traiter les conflits avec ses voisins. La deuxième chose au gouvernement, je demande à ce que le problème ne soit pas résolu en amont, mais plutôt en aval. C'est-à-dire, le gouvernement congolais doit apprendre à chercher les véritables causes qui entraînent le déplacement massif de sa population. Je pense que je n'ai pas peur d'être contredit, que c'est un problème de social qui pose problème dans ce pays. Si vous voulez résoudre réellement ces problèmes, cherchez d'abord à résoudre le social du Congolais. Et comme troisième point au gouvernement, je demande à ce que
le gouvernement cherche à rentrer la population violée, la population humiliée dans ses droits. C'est dire que la donc le gouvernement doit chercher des mesures à pouvoir ne fût-ce que. Je sais qu'il serait difficile de rentrer totalement la population dans ses droits, mais il faudrait que le gouvernement prenne des décisions qui consolent la population qui vient d'être refoulée de Brazzaville.
La deuxième recommandation,
je m'adresse aux Brazzavillois. Je sais qu'ils nous captent peut-être par sur Radio Capi ou par d'autres signaux. Sinon, je voudrais que le gouvernement brazzavillois sache qu'il a également une dépendance de la République démocratique du Congo sur plusieurs plans. L'électricité qui aujourd'hui éclaire la ville de Brazzaville provient de la République démocratique du Congo. Il y a les ingénieurs aujourd'hui qui construisent parfois des maisons à Brazzaville. Ce sont des Congolais, les meilleurs enseignants, les meilleurs médecins. La main d'œuvre, c'est une main d'œuvre congolaise.
Jean Placide, je crois que les échanges commerciaux, nous en bénéficions tous, donc les parents d'autres. Nous avons des usines textiles aujourd'hui qui ont fermé et nous profitons, nos mamans profitent d'ailleurs des pannes qui proviennent de Brazzaville.
Dans quel pourcentage, voilà. Vous pouvez voir, mettez-le ça sur la balance, vous allez vite comprendre. Je me dis quelque chose, je voudrais me remémorer, faire un background de ce qui s'est passé. Le peuple brazzavillois a toujours tendance à déranger, à stimuler un peu le peuple congolais. Rappelez-vous, à l'époque des Mouzé, il y avait des bombes qui sont tombées de ce côté, de l'autre côté
du
fleuve,
Jean Placide.
Avant d'aller sur la table des négociations, le pauvre Mouzé avait répliqué par la bombe.
Oui, Jean Placide.
Vous voyez que après qu'il ait renvoyé deux bombes à Brazzaville, et tout s'était réglé à la minute. Je crois que le gouvernement doit tirer de cet effet historique.
Voilà,
c'est pour la commission mixte.
Voilà, allez-y, parce que maintenant je voulais
pour la commission mixte. Oui. Je voudrais que cette commission fasse un travail noble pour étayer les bavures qui ont été commises sur le Congolais de Kinshasa. Ensuite, qu'il n'y ait pas de complaisance dans la plupart des décisions et dans le rapport qui va être mis à la disposition de la communauté internationale. Et pour terminer, il faudrait que cette commission soit dans le juste milieu. Le juste milieu, c'est dire qu'il ne faudrait pas qu'ils tiennent compte seulement des pleurs des Congolais, mais qu'ils tiennent aussi compte des raisons avancées par Brazzaville. Je pense que c'est ce que j'avais à partager avec les...
Merci beaucoup, Jean Placide. Aloïs, vous êtes à Kananga. Bonjour. Voilà, là on a des petits soucis avec la ligne d'Aloïs. On prend plutôt Michel d'abord. On va revenir à vous, Aloïs, le temps que la ligne s'améliore. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, M. Gier.
Quel regard portez-vous sur la tenue de cette commission mixte? Allons droit au but, Michel.
Oui, la commission, je crois, ils ont eu des grandes lignes à suivre pour que nous puissions avoir les résultats. Dire ce qui s'est fait à Brazzaville. Vous savez, nous ne étions pas là. Il y a des gens qui sont venus de là et nous avons vu. Je crois maintenant ce sont des experts qui vont nous donner les résultats de ces rapports. Et cela n'est bien, j'allais acheter quelque chose. Je commence d'abord par corriger l'invité. Lorsqu'il dit que le Congo c'est un paradis, tout le monde vient comme il veut et sort quand il veut. Moi je dis que les paradis fait des signes du ciel, même Dieu n'accepte pas n'importe qui dans son ciel. Il y a des conditions pour hériter le ciel. Il faut se sanctifier. Vous savez, c'est regrettable dans ces pays, lorsque on sait que dans notre pays, tout est accepté. Moi, j'ai allô?
Oui, allez-y, Michel.
Je ne condamne pas à 100% les Congo Brazzaville. Moi, je crois qu'un gouvernement responsable, nous devons d'abord nous poser à nous la première question. Pourquoi cette grande masse comme ça, Brazzaville? Pourquoi cette grande? Vous savez que le Congo Brazzaville a aussi des problèmes économiques. Mais c'est ces problèmes que nous devons nous poser. Mon frère, au moment où je vous parle, si vous allez à Ouiss, vous allez à Mandakou, vous allez trouver des milliers de Congolais qui sont là. Ils cherchent des papiers. Ils attendent, ils souffrent là.
Alors aujourd'hui, tout le monde va à Loufou. Il y a déjà une vague de gens. On a constaté qu'il y a quand même des mouvements, des migrations vers Loufou, la frontière entre l'Angola et la RDC.
Dans tous ces
frontière, vous ne verrez aucun Angolais qui a envie de venir ici. Et lorsque nous sommes là, nous sommes injurés. Ils nous injurient. C'est Bozo Kimanzala. Les gants pour moi, je vous dis une fois, qu'il ne faut pas aimer la pauvreté. La première chose que les Congolais sont en train de fouiller leur pays, c'est la faim. Mon frère, si vous allez en Tanzanie, vous allez au Rwanda, vous allez en Afrique du Sud, vous allez par-ci par-là, le constat que j'ai fait, que ces pays font des efforts pour d'abord éradiquer la faim. Si vous êtes dans ces pays, vous allez voir que les manger, ce n'est pas un problème. À s'habiller, ce n'est pas un problème. Vous pouvez avoir peut-être des problèmes environnementaux, des logements, mais en ce qui concerne à manger, manger comme vous voulez, vous vous habillez bien. Mais ça, ce sont des problèmes dans notre pays. Et pour finir, je ne peux pas monopoliser la parole. Pour finir, je conseillerais notre gouvernement. Il ne faut pas trop parler. Nous voulons voir des actes. Il y a beaucoup qui le disent que non, nous sommes venus de loin. Non. Ça, c'est un langage de l'âge. Vous savez, les temps qu'a eu la fournicide avec l'apartheid. Mais lorsque l'apartheid avait fini, c'est le décollage. La guerre des libérations va connu l'Angola. Beaucoup de temps. Mais après cette guerre, il y a eu le décollage. Ça, il faut changer ce langage. Et pour conclure, je voudrais dire à notre gouvernement de prendre ses responsabilités. Parce que ces enfants sont en train de fouiller leur nation. Il faut qu'eux-mêmes puissent se poser la question. Ils fouillent pourquoi? Pourquoi moi, papa, mes enfants me fouillent? Ça, c'est la grande
voilà, merci beaucoup.
Parce que si nous sommes à l'aise, je ne pense pas. Qu'est-ce que nous serons bâchés, chers amis?
Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'Aloïs est en ligne? Aloïs, on va y contenter à nouveau. Aloïs, vous êtes avec nous?
Voilà. Bonjour, mes capteurs et tranquilles.
Voilà, allez-y, Aloïs.
Oui, je voudrais aller peut-être m'inscrire parce que je pense que tous mes précédents ont presque tout dit, non? Je vais compléter un petit mot sur ce qu'ils ont dit. En fait, nous sommes en relations internationales. Ici, relations internationales va léger des intérêts. Mais quand est-ce qu'on parle des intérêts? Où est-ce qu'on peut trouver des intérêts réellement? Pour répondre à cette question, moi, je veux m'atteler sur les deux images que les acteurs en relation internationale s'accordent, spécifiquement les États. En relation internationale, les États sont soit amis, soit ennemis. Or, après la lecture de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, même si certaines personnes ont vraiment peur de le dire noir sur blanc, nous sommes devant, n'est-ce pas, le fait que les relations entre les deux États sont déjà brouillées. Bon, en rapport avec cette commission qui a eu lieu, on ne réside pas. Nous sommes toujours en relation internationale. Tant que ce déjà se trouve déjà devant un problème, est-ce que ça serait mieux que ces deux États seulement se retrouvent un seul sans qu'il y ait l'assistance pour renforcer les idées de ceux qui ont parlé en rapport avec les techniques de négociation en relation internationale? Pourquoi ne fallait-il pas qu'il y ait la médiation? Voilà un peu ma question que je me pose. Alors, à ma façon de dire, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, je comprends que ces deux États, au départ, liés par certains accords, ils n'ont pas pu respecter en rapport avec ce que nous sommes en train de voir se passer actuellement. C'est comme pour dire, comme si c'était encore les deux États qui sont retrouvés dans cette commission sans qu'il y ait l'assistance d'une grande puissance, par exemple, ou de la communauté internationale, qui tournerait sur les deux États faibles, peut-être, qui sont en train de violer, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont comme accord. Et qui risque de s'avérer vraiment un chapelet de bonnes intentions. Alors, je voudrais faire une petite recommandation par rapport à notre gouvernement. Vous savez, monsieur Gilles, en relation internationale, la notion de puissance est très capitale. Est-ce que jusque-là, votre État a déjà capitalisé cette notion de puissance? Elle s'est définie du point de vue à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'intérieur, je ne parle pas parce que, par rapport avec cet aspect sur lequel nous analysons, nous voulons parler de la puissance du point de vue extérieur. Donc, est-ce que notre gouvernement a déjà capitalisé la notion de puissance, réellement? Parce que c'est en rapport avec ça. Chaque fois, vous allez voir, même dans cette commission-là qu'il y a eu, peut-être notre État a négocié dans un état de faiblesse. Nous décrions chaque fois la façon dont on dit que la politique étrangère est le reflet de la politique nationale. Donc là, je vais peut-être dire un mot par rapport à ce que mon ami vient de dire tout de suite dans le dernier intervenant qui m'a précédé. Il parle du fait que les Congolais sont en train de fuir. Et sont les domaines directs de notre politique nationale. Il fallait que le gouvernement récompense notre politique nationale et bien que la politique nationale est déjà récompensée, et bien nous pouvons voir maintenant en international ce que nous pouvons faire. Mais tant que chaque fois nous continuerons à négocier en état de faiblesse, je pense que tout ce que nous pouvons faire sera vraiment mis le temps de faire.
Merci beaucoup, Aloïs. On prend Norbert qui est à Lubumbashi. Norbert, bonjour. Voilà, Norbert, vous nous avez rejoint, vous êtes en ligne.
Allô, c'est Martin, ce n'est pas Norbert.
C'est Martin, vous êtes à Lubumbashi. Merci beaucoup, Martin. Vous avez la parole.
Merci, JR. Je salue l'invité, ainsi que tous les auditeurs de la radio Okapi. Monsieur JR, vous savez, avec le problème qui est arrivé au Congo-Brazzaville, tout au début des expulsions, vous avez organisé une autre émission pareille. Vous avez vu l'intervention de tous les Congolais de toutes les provinces de la République. Nous, les Congolais, nous sommes unis et nous voulons toujours que le pays soit uni avec toutes les provinces. Le problème, c'est avec ces expulsions, c'est un problème qui a été bien organisé par le gouvernement de Congo-Brazza. Moi, nous avons, tout au début, quand vous avez organisé une autre mission sur ces expulsions, tous les Congolais avaient mis un point de vue pour dire qu'il fallait que notre gouvernement puisse aussi réagir par force. Hein, mais ce n'est pas une façon de chercher à conserver des relations. Vous avez vu comment est-ce que nos populations ont eu à souffrir. Hein? Mais quand il y a des problèmes pareils, il faut savoir aussi prendre une position pour aussi qu'on puisse vous respecter de l'autre côté. Mm-hmm. Ce n'est pas bien avec ce qui se passe au Congo Brazza. Vous avez suivi une position du ministre de l'Intérieur du Congo Brazza, c'est qu'il a eu à répondre. Mais ça ne nous a pas enchanté vraiment. Ce n'est pas. Voilà. Ce n'est pas
Martin, je crois que nous avons.
Il y a un problème pareil. Oui. Notre pays doit avoir aussi prendre une position.
Je crois que il y a un principe pour les Africains pour régler les conflits, c'est toujours autour de l'arbre à palabre. On se met tous ensemble. Merci beaucoup, Martin. Alors, professeur Matazi, tu vois, il y a un certain moment, il y a des passions, et c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont relevé quand même des questions sur le droit international, les relations internationales, mais on oublie vite, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays hospitalier, il y a quand même des Congolais qui ont vécu longtemps ici, hein, à une certaine époque, les Angolais aussi, hein, des centaines, des milliers des Angolais qui ont vécu ici, et donc ce n'est pas seulement que les Congolais vont massivement vivre ailleurs, mais il y a d'autres peuples aussi qui ont choisi à une certaine époque les Zaïre, le Congo, et je crois que c'était pas seulement lié aux conditions sociales, hein, dans leur pays, des mauvaises conditions sociales. Donc on est libre de choisir quand même un pays où on peut quand même vivre tranquillement, non?
Tout à fait. Il faut poser autrement le problème. Nous sommes en relation internationale. Lorsque vous parlez de relations internationales, il faut faire très attention. Il s'agit de quoi? Il s'agit de relations internationales comme ensemble des rapports entre les acteurs ou de relations internationales comme discipline scientifique. Et lorsque nous parlons là, il y a un auditeur qui a parlé d'une perception de relations internationales, hein, en disant que les États
soit amis, soit ennemis.
C'est l'une des perceptions de relations internationales. Il ne faut pas globaliser cette situation. Ça, c'est une vision réaliste. Et il atterrit sur les questions de puissance. Les États en relations internationales, comme acteurs principaux, ne sont pas nécessairement ou toujours amis et ennemis. Ils peuvent être interdépendants, ils peuvent être partenaires. Parce que ça, il développe la vision réaliste des relations internationales. Au-delà de cette vision réaliste, il y a d'autres visions. Il y a la vision libérale des relations internationales, qui voudrait considérer tous les États comme appartenant à une certaine communauté internationale. Il faut faire très attention parce que les États, par un moment, peuvent être interdépendants. C'est cette interdépendance-là qui lie le Congo-Brazza
et au Congo-Kinshasa.
C'est cette interdépendance-là qui fait en sorte que le Congolais de Kinshasa s'établissent au Congo-Brazzaville et vice-versa. Le vrai problème, c'est que ils doivent être réguliers. Ils doivent avoir
un séjour régulier.
Sinon, l'État, le Congo-Brazzaville, peut les expulser. C'est une question de souveraineté nationale. Ce qu'il faut condamner plutôt, c'est la manière avec laquelle ces expulsions-là ont eu lieu. Deuxième élément, JR. En relation internationale, les relations internationales sont différentes de droit international public ou droit international. En relation internationale, tous les États ne sont pas égaux. Il y a une hiérarchie de puissance. Alors, pour négocier, il faut avoir l'équilibre de force. C'est ce que nous appelons, c'est comme ça que nous l'appelons en technique de négociation. Retenez, vous avez les superpuissances, vous avez les grandes puissances, vous avez les puissances moyennes, vous avez les puissances régionales, vous avez les puissances locales. Dites-moi, le Congo est quel type de puissance? Il ne faut pas avoir honte. Lorsque j'ai parlé du paradis, c'est simplement un langage imagé pour parler de l'hospitalité.
C'est pourquoi un auditeur, il y a Jean Placide qui a proposé, il dit, en principe, le Congo doit repenser, Congo-Kinshasa doit repenser, doit rectifier la manière de traiter des conflits sous-régionaux ou régionaux.
Moi, j'ai dit mieux. Le Congo doit inventer une nouvelle perception de traitement des questions internationales. Le Congo doit inventer ses relations internationales. Le Congo doit refaire sa politique étrangère. Déterminer les axes. Déterminer les objectifs. Déterminer les courants doctrinaux, les courants philosophiques. C'est très important. Vous voyez, le Congo se trouve au banc des accusés. Le Congo ne pèse pas. Et pourtant, le Congo a des atouts. Qu'est-ce que nous avons à envier sur le plan interne, sur le plan des atouts du Congo-Brazza? Rien. Nous pouvons faire en sorte que le Congo-Brazza soit paralysé. Mais ça fait quelques mois, on a parlé de questions de pont. On devait jeter un pont entre Congo. Mais aujourd'hui, on parle de visas. On parle de passeports. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, quelle est la politique régionale du Congo? C'est ça le problème. Il faut redéfinir. Le Congo doit se réinventer. JR, je ne veux pas terminer sans vous dire ce
soir. Voilà, on va d'abord passer au bulletin et puis on va revenir à vous, professeur Tazi, et nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent aussi intervenir en composant les 081-890-6315.
Radio Okapi.
Le bulletin d'information Belinda Boutouma.
Bonjour. Les ressortissants des deux Congos devront-ils continuer à se rendre dans l'un ou l'autre État avec un visa ou plutôt le laisser passer? En tout cas, rien n'a clairement été dit sur cette question au cours de la 4e session ordinaire de la Commission spéciale défense et sécurité des deux pays, travaux des deux jours clôturés hier à Kinshasa. Toutefois, il a été décidé notamment la mise sur pied d'une équipe mixte RDC République du Congo. Objectif, examiner au cas par cas les allégations relatives aux violations des droits humains commises au cours des opérations d'expulsion des Brazzaville des Congolais de la RDC. Les envoyés spéciaux de la communauté internationale pour la région des Grands Lacs réaffirment leur détermination à poursuivre la traque des forces négatives et le respect des recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba par tous les signataires. Au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa, les envoyés spéciaux de l'ONU, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Union africaine ont demandé à la CENI de publier un calendrier électoral global allant des élections locales aux présidentielles, et cela dans le délai constitutionnel, soit entre 2014 et 2016. Entre-temps, la société civile de Kasenga dans le Katanga appelle les autorités politico-administratives et militaires à s'impliquer dans la sécurisation de leur localité. Appel lancé hier après l'incursion lundi des Mai Mai Bakata Katanga dans cette localité située à 305 km au nord-est de Kamina. Pour cette organisation, les attaques à répétition de ces miliciens provoquent des mouvements massifs des populations. Hippolyte Kalinga nous en dit plus.
Les attaques régulières de Mai Mai Bakata Katanga causent d'énormes dégâts à Kasenga. Selon les responsables de la société civile locale, on enregistre un mouvement massif des populations avec perte de biens. D'après ces sources, la localité de Kasenga s'est vidée de ses occupants depuis hier après l'attaque d'il y a deux nuits. Toujours selon la société civile locale, les maisons de quelques enseignants, d'un préfet et du directeur d'une école primaire sont tombées victimes de l'attaque des assaillants. Selon ces sources, cette situation entraîne également la perturbation du calendrier scolaire. Certains enseignants sont actuellement à Mukanga, c'est à 45 km au sud de Kasenga. D'autres sont à Mulongo, c'est à plus de 100 km toujours au sud de Kasenga. Information confirmée par les sources policières. La société civile de Kasenga appelle les autorités politico-administratives et militaires du district à sécuriser la population victime d'attaques régulières de Mai Mai. L'administrateur du territoire de Malemankulu dit attendre le rapport du chef de cette localité avant toute déclaration. Kamina, Hippolyte Kalenga, Radio Communautaire du Katanga pour Radio Okapi.
Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir de 5h, heure de Manterne dans le Bas-Congo. Une heure de plus à Mangurejipa dans le Nord Kivu.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Papi Kassema est à Kinshasa, Daniel à Lubumbashi, Guillaume à l'Équateur. Papi, bonjour. Papi Kassema, vous êtes avec nous? On prend plutôt Daniel qui est à Lubumbashi. Daniel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Hier, bonjour à tous, à notre invité.
Voilà, Daniel, vous avez la parole.
Merci pour la parole. Hier, je voulais commencer mes propos en disant ceci. La grande question, c'est celle qui a été posée au début de notre émission. C'est celle-ci. Pourquoi les Congolais vont-ils en masse dans les pays étrangers?
Et, voilà pour, la grande question, Daniel, la grande question aussi, pourquoi à une certaine époque, les Angolais sont, se sont établis ici au Congo en masse?
Mais, c'est la question à laquelle nous devons répondre. Je suis ici à Lubumbashi, tout près de nous ici à Kasumbalesa. Lorsque vous allez en Zambie, qu'est-ce que les Zambiens disent? Les Congolais fuient chez eux la paix. Et cela semble se vérifier. À chaque fois que la Zambie ferme sa frontière, c'est la farine qui augmente depuis ici chez nous au Congo. J'allais dire ceci. Notre État est défaillant et se cache derrière des concepts tels que hospitalité légendaire. Mais tout ça, c'est pour juste flouer. En réalité, nous n'avons pas de moyens aussi pour expliquer. Ça, c'est aussi des missions régaliennes. Réguler les étrangers qui sont en situation
régulière. Voilà. Daniel, si on peut s'écouter. Alors, parce qu'il y a eu quand même des avancées, il y a un pas qui est franchi, un pas de plus vers l'apaisement entre les deux capitales les plus rapprochées géographiquement du monde. Alors, là, cette quatrième session a décidé la mise sur pied d'une commission d'enquête pour établir la vérité sur des cas présumés de violations des droits de l'homme. Et alors, quel regard portez-vous sur la tenue de cette commission qui a pratiquement passé en revue des accords précédents qui ont été d'ailleurs revisités?
C'est une bonne chose, ces accords-là, je les apprécie. Mais même le Congo Brazzaville l'a souligné. On va passer à la commission d'enquête, mais il n'exclut pas de refouler les Congolais en situation irrégulière.
Ça, c'est normal, c'est la souveraineté d'un État. C'est la souveraineté d'un État, Daniel. Donc on ne peut pas aller dans un pays.
On ne peut pas aller vivre. Notre État est défaillant. Ne sait pas le faire parce que nous n'avons pas les moyens de le faire.
Mais Daniel, je ne pense pas que vous pouvez, parce que vous êtes à Lubumbashi, j'imagine que deux fois vous traversez, vous allez en Zambie, et soit pas pour un court séjour, mais si vous voulez vraiment vous établir au niveau de la Zambie, je crois que vous allez chercher en bonne et due forme un séjour régulier.
Je vais les chercher, mais le problème, c'est que ce qui concerne aussi mon pays, si moi je dois subir cela en Zambie, je dois avoir des documents réguliers. Mais les Zambiens aussi doivent subir le même sort. Mais ce n'est pas le cas ici à Lubumbashi. Nous avons des Zambiens, des Tanzaniens, des Zimbabwe,
qui sont assez réguliers.
Tout cela parce que notre État n'a pas les moyens de le faire.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé. Voilà. On va prendre Guillaume. Guillaume, vous êtes en Équateur. Bonjour.
Bonjour, Gérard. Je voudrais peser le cœur de tous les Congolais qui ont parlé.
Oui.
Pour moi, je crois que le Congo Brazzaville a raison de faire ça. C'est une initiative d'un État. Je parle comme un spécialiste de la relation internationale de l'Afrique de l'Est. Je n'ai pas été formé au Congo. Je crois que chaque État a la capacité de décider de faire, la capacité d'empêcher de faire, la capacité de refuser de faire. Je crois que c'est un attribut d'un État. Je trouve que c'est très bien de rester dans les principes des conventions, des lois internationales. Donc, je propose pour moi, il faut inventer la théorie de vivre ensemble. Il faut que les Congolais trouvent le sentiment d'union nationale. Il faut que cette activité bizarre cesse. Mais c'est vrai, il y a une crainte, mais il faut une garantie. Pour le gouvernement, je devais proposer une petite phrase. Je crois que le gouvernement doit éviter une légèreté des espaces de désinformation et de simples déclarations. Donc il faut réfléchir et trouver des solutions en cet refoulement de l'enseignement. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci Guillaume. Voilà, alors t'as dit avant les bulletins, c'est vrai qu'on évoquait également la question sur la médiation aujourd'hui. Cette question est revenue, en tout cas il y a plusieurs auditeurs qui ont abordé cette question. Alors comment vous vous orientez à cette vision, cette perception de choses?
Très bien. Avant de répondre à votre question sur la médiation, il faut revisiter l'histoire. Il faut revisiter l'histoire. Il faut éviter la passion. Ce n'est pas une question qui incombe au Congo-Brazza. Le Congo-Brazza peut faire tout ce qu'il veut, mais en respectant les principes du droit international relatif aux expulsions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je ne sais pas ceux qui parlent, s'ils ont converser avec les expulsés. Moi, on a discuté avec certains. Alors, voici la réponse que quelqu'un m'a donnée. Il me dit, ils leur ont dit qu'en 1964, les Zaïrois avaient expulsé les Congo-Brazzavillois. Et ceux-ci avaient perdu leur bien. Alors, ils en fait aujourd'hui les cinquantenaires. Ils font la même chose. Voyez-vous, ils font la même chose. Si les conditions ne sont pas réunies chez vous, faites en sorte que ces conditions-là reviennent. Mais pour cette histoire de médiation et ainsi de suite, pourquoi est-ce que les Congolais ont peur? Ils ne se font pas confiance. Ils pensent que dans ces forums-là, ils ne seront pas entendus parce qu'ils ne représentent rien sur le plan régional. Pour qu'il y ait médiation, il faudrait que les deux parties se conviennent des modalités. Sinon, ça ne se fera pas. Et si les Congolais, si les deux parties se mettaient ensemble et que le Congo-Brazzaville reconnaissait ses erreurs, ils peuvent se décider de résoudre la question à l'amiable. Donc, il ne faudrait pas que l'on fasse un panneau d'affaires. C'est une question entre États. C'est une question qui doit être traitée au haut niveau. Je ne cesse de dire qu'en relation internationale, les États sont des acteurs rationnels. Ce qu'ils veulent obtenir, c'est l'optimum de leur objectif politique étrangère. S'il faudrait que le Congo l'obtienne en résolvant la question à l'amiable, il faudrait que ça se fasse. Mais simplement, il faudrait responsabiliser le gouvernement. Le gouvernement doit cesser de subir les événements. Il faut les anticiper. Je trouve anormal qu'un État sérieux puisse être pris à dépourvu par un voisin. Un voisin me dit en plus.
Et pourtant, il y a des services de sécurité, des renseignements.
Un État sérieux ne peut pas être pris à dépourvu. Nous devons tirer les conséquences et tirer les leçons.
Alors revenons un peu sur la ratification maintenant de ces accords, parce que c'est vrai, il est dit que les deux parlements pouvaient en fait en débattre et arriver peut-être à ratifier solennellement pour que aucune partie ne puisse négliger ou bafouer encore les accords, hein, parce que si on revient encore sur les accords de 1999, il est ressorti clairement que ces accords n'ont pas été respectés, le fait qu'ils n'ont pas été ratifié. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut qu'on accorde quand même un bénéfice de l'urgence à cette ratification?
Écoutez, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Les États, ce sont des acteurs rationnels. Ils sont motivés par leurs intérêts. Un accord reste un accord. Chez les vivants, on peut dire une chose aujourd'hui et en dire une autre demain. Si l'intérêt du Congo-Brazzaville et de respecter les accords, le Congo va les respecter. Mais si son objectif de politique étrangère le pousse à ne pas le faire, il va en passer
contre. Il faut mettre du temps, il va même pas traiter.
Donc la ratification est un processus solennel. Hein, est un processus solennel qui donne un sens à un traité. Bon, en fait, un traité, on peut l'appeler accord, on peut l'appeler concordat, on peut l'appeler convention, ainsi de suite. Il y a des procédures régulières. Mais si, par exemple, un État pense qu'il peut passer outre un accord, il va le faire. Parce que un État reste souverain, bien qu'il y a des principes du genre partage de Rwanda, du genre fait de stopper les autres. Mais un État reste souverain dans la gestion de sa politique étrangère.
On va terminer cette émission, on va accorder juste 30 secondes aux derniers auditeurs. Julienne, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Julienne.
Allô.
Voilà, on prend plutôt Joël. Joël qui est... Julienne est là? Ok, d'accord. Julienne, bonjour. Voilà, rapidement, Julienne, vous avez 30 secondes parce qu'on n'a plus assez de temps.
Bonjour,
Julienne. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Julienne. Voilà, parce qu'elle est très collée à son poste récepteur. Alors, on aura des petits soucis, bon dommage. Allô. Enfin, d'abord, Christian. Christian, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Julien.
Vous avez la parole en 30 secondes, parce qu'on n'a plus assez de temps. Il ne nous reste qu'une minute pour conclure avec notre invité.
Ok, merci hier. Je voulais dire ceci par rapport à la commission mixte. Mm-hmm. Parce que moi, je m'inscris en faux pour la dite commission mixte. Pourquoi ? La dite commission mixte, elle est composée de l'initiateur du fameux Mbata Mokolo et les membres de notre gouvernement. En ce moment-ci, on est vraiment en porte-à-faux parce qu'on est faible. L'initiateur du Mbata Mokolo, le fameux nom déjà qui peut nous illustrer ce que les Brazzavillois ont pensé en donnant ce nom-là. Ils ne peuvent pas... Et puis, ils doivent enquêter sur le cas par cas. Il y a au moins 120 000 expulsés. Et la plupart, il y en a certains qui sont déjà partis au Bas-Congo, et ceux-là qui sont en train d'aller à l'Équateur, ils sont en train de nous emmener sur un terrain où ils vont conclure en disant qu'il y a eu 10 cas irréguliers sur les 120 000. Vous voyez déjà le ratio, donc c'est minimisable. Je vois mal que cette commission puisse descendre au Bas-Congo, interviewer les gens qui ont été expulsés au cas par cas.
Voilà, Christian, dommage, on ne pourra pas s'étendre plus longtemps avec vous, hein, parce que le temps nous fait défaut. Nous disons également merci à Tazi. Hein. Juste un mot pour la conclusion, Tazi, professeur, pour cette Tazi.
Je suis très heureux de participer à l'émission. Les problèmes congolais, il faut tirer les leçons des expulsions et responsabiliser le gouvernement pour que à la prochaine, ce genre de comportement dégradant ne puisse plus jamais se répéter.
Professeur Tazi Mahatma, vous êtes docteur en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci d'avoir fait les déplacements de ces studios. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce programme qui a été mis en onde par Mimi Kindou, réalisé par Noëlla Luzitu et présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien.